Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 4. Ce passage s'effectua dans des conditions que l'obscurité rendait encore plus périlleuses. Mais chacun comprenait que le moment approchait des grandes épreuves à subir. Jusque-là, en effet, on s'était considéré comme des voyageurs parcourant un pays nouveau, tantôt étonnés de la grandeur du spectacle qu'offrait cette nature étrange, tantôt séduits par les tableaux pittoresques se succédant. Maintenant, le voyageur allait disparaître pour faire place aux soldats. Le chevalier de Vaudrey, chargé par Lafayette de commander les recrues qui allaient rejoindre les garçons de la Montagne Verte, se renfermait à présent dans son rôle d'officier. Lorsqu'il eut ordonné que ses soldats se missent en file pour effectuer le passage du torrent, on avait obéi militairement. Puis, au moment où le premier y s'était engagé sur le tronc d'arbre, il y eut parmi ces hommes courageux et déterminés un frissonnement prolongé. Tous les regards s'étaient portés sur le jeune officier qui, cette fois encore, voulait donner l'exemple de l'énergie et du sang-froid. Il suffisait d'un mouvement de pied portant à faux pour que l'officier perdît l'équilibre et que son corps roula, écrasé sur le rocher, et fut emporté dans la course vertigineuse du torrent. Aussi, toutes les poitrines étaient-elles haletantes pendant les quelques instants que dura le passage. Et lorsqu'on eut vu le chevalier debout, sain et sauf sur l'autre bord, un murmure de soulagement se fit entendre pour lui dire avec quelle anxiété on avait suivi chacun de ses pas sur ce pont si peu sûr. Alors, le passage des hommes commença avec toute la prudence indiquée en pareil cas. Puis, quand ce fut le tour de Gaspard, le jeune Parisien, qui était resté le dernier, voulut donner un spectacle à ses camarades. Prenant un élan, il s'élança sur le tronc d'arbre, à la façon d'un danseur de cordes, et en se servant de son fusil comme d'un balancier. Arrivé au milieu du trajet, il s'arrêta dans l'attitude que les artistes donnent à la figure de la renommée. Et il demeura ainsi, les bras étendus, une jambe en l'air, tandis que sous lui le torrent roulait avec de redoutables mugissements. Cette gymnastique dut cependant prendre fin. Le chevalier de Vaudrey appela le Parisien auprès de lui. Gaspard obéit aussitôt et s'approchant de son chef. « Monsieur le chevalier, dit-il, voudra bien me permettre de lui donner un tout petit conseil ?»« Parlez, monsieur, répondit Roger, qui ne se défendait pas, on lisait, d'une certaine sympathie pour le gai compagnon que le hasard lui avait donné. « Un bon conseil, je crois, reprit le Parisien. « De quoi s'agit-il ? Demanda le chevalier. « Tout simplement de passer une nuit tranquille au milieu de la forêt. Ce n'est pas à dédaigner cela, n'est-ce pas, monsieur le chevalier, après toutes les marches et contre-marches que nous avons exécutées ?» Et indiquant le tronc d'arbre sur lequel tout le détachement venait de passer. « Une armée en marche qui craint la poursuite coupe les ponts derrière elle. Par conséquent, je propose à monsieur le commandant de flanquer ce tronc d'arbre dans le torrent, afin que s'il prenait fantaisie à des Indiens ou à des Anglais de nous attaquer dans notre camp retranché, ils en fussent pour leur peine. » Puisque là-bas, de l'autre côté du torrent, dans cette vaste plaine que nous venons de traverser, il n'existe pas un seul arbre. Puis comme Roger semblait réfléchir, Gaspard continua. « Je me charge de l'opération. Il n'y aura pas besoin d'employer la mine. Monsieur le chevalier n'a qu'à me donner l'ordre. » « Soit, fit Roger, je reconnais que c'est une mesure prudente que celle que vous me conseillez. » Moins de 5 minutes plus tard, le tronc, soulevé par un bout, était précipité dans le torrent. Une fois que le détachement eut pénétré dans la forêt, le chevalier de Vaudrey établit ses hommes dans une clairière, comme dans un bivouac. Il leur fit prendre toutes les précautions indiquées en pareil cas. D'abord, il recommanda le silence absolu. Puis après avoir reconnu les abords du campement, il plaça lui-même les sentinelles de façon à pouvoir être renseigné immédiatement par un signal convenu si quelque incident venait à se produire. Quand Roger se fut ainsi assuré que l'on était à l'abri d'une surprise, il appela Gaspard auprès de lui, dans l'endroit qu'il avait choisi pour passer le temps que durerait la halte. Ces deux hommes, intrépides chacun à sa manière, étaient bien faits pour s'entendre. Aussi Roger n'hésita-t-il pas à confier au jeune Parisien ses appréhensions d'avoir à passer la nuit dans cette forêt, ses craintes au sujet des événements qui pourraient se produire avant qu'ils aient pu gagner la Montagne Verte. Qui nous dit que nous marchons dans la direction de la province de Vermont ? Ajouta le chevalier. « C'est juste, répondit Gaspard. Rien ne nous prouve que nous avons devant nous la fameuse Montagne Verte. J'ai cependant la conviction intime que nous ne faisons pas fausse route. » « Une chose m'étonne, dit le chevalier. C'est que cet homme, cet habile tireur, qui a si puissamment contribué à nous débarrasser des Indiens, se soit dérobé à nos remerciements.
C'est sans doute quelque philosophe misanthrope, riposta Gaspard en riant. Il peut s'en trouver partout, même dans les savanes de l'Amérique.
Ah, si nous le retrouvons jamais, j'aurai bien du plaisir à lui serrer la main. Quel coup d'œil, monsieur le chevalier!
Et Gaspard, mimant la scène, ajoutait avec les gestes ad hoc.
Pif! Un moricaud par terre! Une, deux, la cartouche! La carabine s'abat! Paf! Encore un moricaud qui roule! Et puis, ça ne s'arrête plus! Pif! Paf! Pouf! À peine le temps de viser, saperlipopette, ça ne ratait jamais! Si par hasard il voulait se défaire de sa carabine, c'est moi qui la lui achèterais sans marchander. Et son coup d'œil avec, par exemple.
Tout à coup, Gaspard s'interrompit. Le chevalier de Vaudrey venait de lui appuyer vigoureusement la main sur le bras.
« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le chevalier ?» demanda le Parisien.
« Chut ! Écoutez !» Les deux interlocuteurs prêtèrent l'oreille. Un bruit sourd semblait monter jusqu'à eux, apporté par le vent de la plaine.
« Eh bien ? » fit Gaspard. « C'est la brise du soir, parbleu, mon commandant !» Rien de plus, rien de moins.
Mais pour la seconde fois, Roger imposa silence à son compagnon. Puis se levant d'un bond.
« Il faut que je prévienne mes hommes » prononça-t-il à voix basse.
« Vous croyez donc ? » ?»«
Je crois que nous devons nous attendre à tout, et qu'il importe que nos compagnons fatigués ne se laissent pas aller au sommeil.
« En outre, ajouta-t-il, je dois, en ma qualité de chef, m'assurer que les armes sont en état et chargées, que les munitions ne manqueront pas au plus fort de l'action. »
Mon commandant, rien n'indique que nous allons être attaqués.
Est-ce que quelque chose indiquait il y a moins de 2 heures que les Indiens nous surprendraient?
Juste, parfaitement juste, ces diables de Morico sont de véritables lézards qui glissent dans l'herbe sans faire plus de bruit qu'une fourmi qui chemine.
Soudain, Gaspard s'arrêta net dans sa phrase. Une voix venait de crier. Qui vive? Aussitôt, le chevalier et son compagnon s'élancèrent dans la direction d'où leur avait paru provenir l'exclamation. Au mot de « qui vive », prononcé par la sentinelle avancée qui, le fusil croisé, attendait de pied ferme, une forme humaine apparut comme si elle fût sortie de terre. Et une voix répondit « Français !» Puis, sans donner à la sentinelle étonnée le temps de répliquer, celui qui venait de parler s'avança résolument et ajouta « Bas le fusil ! Vous aurez besoin tout à l'heure de la cartouche qui se trouve dedans. » La sentinelle, interloquée un instant, retrouvait maintenant son sang-froid. « Qui vive ? » répéta-t-il.
« Je vous ai répondu, nom d'un tonnerre !» s'écria l'inconnu. « Je suis français. Parbleu, ça se voit, et de reste !»
Par toute autre circonstance, le soldat n'eût pu s'empêcher de rire à cette réplique. En effet, l'inconnu portait un costume des plus étranges, pour un français. Sa grande taille, se dessinant à la clarté de la lune, laissait voir un visage, rappelant par les bariolages la face peinturlurée des sauvages. Mais par un caprice de l'artiste qui avait composé les dessins, sur l'une des joues du singulier personnage, se détachait, peint en rouge vif, un cœur enflammé, transpercé d'une flèche bleue aux barbes roses. Sur l'autre joue, une tête de mort noire, avec 2 points d'ocre vif pour indiquer la cavité des yeux. Une longue barbe grisonnante descendait au milieu de la poitrine, recouverte d'une peau de castor jusqu'à la taille, autour de laquelle s'enroulait une large ceinture qui précédemment avait dû être bleu de roi. Une culotte, effilochée par le bas, recouvrait les cuisses jusqu'au-dessus des genoux, laissant la place libre à de longues guêtres dures, taillées à même dans une peau de buffle, et que des courroies de cuir maintenaient solidement sur les jambes. Ces guêtres absolument primitives, s'évasant aux chevilles, laissaient voir les pieds emprisonnés dans des sandales d'un cuir brut, encore recouverts de poils et lacés sur le dessus du pied. Ce bizarre personnage, ainsi affublé, tenait sur l'épaule une longue carabine, dont le bois reposait en partie sur l'épaule droite, recouverte d'une longue peau retombant sur le dos à la façon d'une pèlerine. Les bras étaient nus, tatoués jusqu'au coude et velus jusqu'au poignet. À l'aspect de cet homme qui se disait français et qui avait l'air d'un sauvage, la sentinelle fit 2 pas en arrière afin de se mettre sur la défensive. Mais l'inconnu marcha sur lui et le saisissant par le bras.
« Je suis français, » répéta-t-il, « et un autre militaire que toi, Clampin. « Tu vas donc bien vite abaisser ce fusil que tu tiens comme une seringue et me conduire tout de suite auprès de ton chef. » Mais comme la sentinelle faisait mine de vouloir résister, « Plus vite que ça, Clampin !» commanda l'inconnu en serrant le bras du jeune soldat. « Ça presse, nom d'un tonnerre !» puis changeant de ton et se radoucissant. « Au fait, tu as une consigne,
et c'est d'un bon soldat d'observer la consigne. Mais je sais qui vous êtes. Je sais aussi qu'on vous attend à la Montagne Verte. C'est pourquoi je ne veux pas que vous soyez pincés comme des lapins par les Sioux. Le nom de ton chef, Clampin ?
Chevalier de Vaudrey, répondit la sentinelle, qui, maintenant que l'inconnu lui avait parlé des Sioux, dont il fallait éviter la rencontre, ne pouvait douter qu'il eût affaire à un ami.
« Conduis-moi auprès de ton chevalier, » prononça l'inconnu d'une voix ferme. La sentinelle allait vraisemblablement obéir à cette injonction quand du milieu des arbres arrivèrent Roger et le Parisien.
« Qu'y a-t-il ? » demanda le chevalier en venant d'un bond se placer entre la sentinelle et l'inconnu. À la vue de Roger, celui-ci s'inclina légèrement, puis se redressant de toute sa hauteur.
« Vous êtes l'officier ? » demanda-t-il.
« Je commande le détachement, » répondit Roger.
« Et vous êtes mon prisonnier. »
L'inconnu ébaucha une grimace qui avait la prétention de passer pour un sourire. Mais son visage reprit, malgré son bariolage, une expression sérieuse. Et il s'écria. «
Les garçons de la Montagne Verte vous attendent, monsieur le chevalier de Vaudrey. Et je suis venu à votre rencontre, pour vous guider sûrement. »
Gaspard avait, pendant le court colloque, détaillé l'accoutrement du personnage.
« Ah, c'est donc toi, » dit-il. « Je te reconnais bien. C'est toi qui tires si bien sur les moricauds à la volée. »
L'inconnu inclina la tête. Puis haussant les épaules, « C'est pas le moment de bavarder, nom d'un tonnerre, » répondit-il. « Quand vous allez avoir toute une nuée de moricauds sur les bras et que nous ne pourrons pas tirer à la volée, c'est moi qui vous le dis, et vous pouvez croire Rabusson. »
Chevalier de Vaudrey imposa silence aux deux interlocuteurs.
« Qui êtes-vous » interrogea-t-il, s'adressant à l'inconnu. « Rabusson, puisque je viens de vous le dire. Autrefois sergent dans l'armée française et aujourd'hui son maître absolu et bon tireur. Vous avez pu en juger. »
« Comment vous trouvez-vous costumé de la sorte ?» interrompit Gaspard.
« Ça, c'est mon affaire, mon bonhomme. »
Le chevalier de Vaudrey fit signe à Rabusson de le suivre à quelques pas. Et lorsqu'il fut seul avec l'étrange personnage,
« Qu'avez-vous à me dire ? » demanda-t-il vivement.
« J'ai à vous dire, monsieur le chevalier, que les Sioux entourent la forêt. Ils vous ont vu, tout comme moi, franchir le torrent. Et s'ils vous ont laissé faire, sans vous envoyer des flèches qui auraient troué vos corps jusqu'au dernier, c'est qu'ils étaient bien sûrs de vous prendre ici, tout vivant dans cette forêt.
« Nous nous défendrons, » répliqua Roger. « Nous brûlerons jusqu'à notre dernière cartouche. »
Le chevalier, marchant avec agitation, continua en s'animant.
« J'ai avec moi des hommes déterminés. Pas un ne bronchera tant qu'il sera debout. Et puisque grâce à vous je sais quel danger nous menace, je vais les prévenir et les réunir ici autour de moi afin de repousser l'attaque que vous prétendez imminente.
« Inutile, mon officier. Il n'en restera pas un seul debout avant qu'il soit seulement une petite demi-heure.
« Alors, vous voulez dire que nous sommes perdus ?» s'écria Gaspard, qui peu à peu s'était rapproché.
Rabusson le toisa d'un air dédaigneux.
« De quoi tu te mêles, Blanc-Bec ? » riposta-t-il.
Ce fut le chevalier de Vaudrey qui répondit en s'adressant à Rabusson.
« Vous êtes français, et comme tel, vous devez avoir à cœur d'épargner à des compatriotes des inquiétudes, des transes, des angoisses. Voyons, puisque vous connaissez le danger que nous courons, dites-moi nettement ce que vous pensez de la situation. »
Et comme le vieux sergent hésitait à formuler une réponse, Roger ajouta en regardant son interlocuteur bien en face.
« Nous sommes perdus, n'est-ce pas ?»«
À peu près, » articula nettement Rabusson. Quel que fût le courage du chevalier et de Gaspard, ceux-ci ne purent maîtriser un mouvement d'effroi. Rabusson reprit après un court silence.
« Cependant, monsieur le chevalier, je dois vous dire que tout n'est pas désespéré. »«
Ah, je le savais bien !» s'écria Gaspard. Roger, d'un geste, lui imposa silence et répondit à Rabusson.
« Vous avez pu pénétrer jusqu'ici, cependant. Si le bois était cerné comme vous l'affirmez, comment avez-vous donc pu réussir à mettre en défaut la vigilance des Indiens ?»«
Oui, comment ?» s'empressa de dire Gaspard, enchanté de prendre le vieux sergent en défaut. Mais Rabusson ne sourcilla pas. « Si je suis ici en ce moment, prononça-t-il d'une voix lente, c'est que je connais cette forêt comme ma poche. Et c'est précisément grâce à ça que je pourrais probablement vous sauver. »
« Nous sauver ?» s'écrièrent en même temps le chevalier et Gaspard.
« Oui, mais pour ça, il faudra que vous m'obéissiez aveuglément. »
Roger et le Parisien regardèrent cet homme qui leur parlait avec cette assurance.
Rabusson fit un mouvement d'impatience.
« Consentez-vous à m'obéir ? »
répéta-t-il. Puis voyant combien les deux militaires étaient indécis sur la réponse à faire, Rabusson reprit, parlant avec une animation croissante.
« Vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais pu arriver jusqu'ici, puisque cette forêt est entourée. Je vais vous le dire, monsieur l'officier. C'est que je suis un habitant de cette forêt, J'ai vécu comme les animaux qui fourmillent et les oiseaux qui logent dans les branches de ces gros arbres. Pas un sentier où je n'ai passé, pas une broussaille où je ne me sois caché quand il fallait fuir les Indiens trop nombreux pour que je puisse m'attaquer à eux, ou bien encore quand je les attendais au passage pour les descendre les uns après les autres. « Comme vous avez fait tout à l'heure ?» interrompit Gaspard. Et le Parisien faisait mine de vouloir prendre la carabine de Rabusson. Celui-ci lui repoussa la main en s'écriant « Ne touchez pas à ça, Blanc-Bec. Pour se servir de cet instrument-là, faut avoir le coup d'œil, quoi. » Puis s'interrompant. « Mais nous n'avons pas le temps de parler de ces choses. Je vous dirai plus tard pourquoi les garçons de la Montagne Verte m'appellent « Vise au cœur ». Le principal pour le quart d'heure est de pouvoir arriver à les rencontrer. « Où sont-ils ? » demanda Roger avec anxiété. « Ils sont en route, parbleu, les braves garçons, pour marcher à votre rencontre. Et je suis parti en avant afin d'éclairer la route. » À coups de carabine, fit Gaspard, qui commençait à sentir son admiration pour l'inconnu augmenter au fur et à mesure que le vieux sergent parlait. Malheureusement, reprit Rabusson, je suis tombé juste sur un passage de Sioux. Ces gaillards-là vont bien sûr rejoindre les Anglais qui campent de l'autre côté de cette plaine. Et Rabusson indiqua la vaste savane qui s'étendait à perte de vue. Puis, continuant à s'adresser à Roger, ces moricauds-là vous ont vu. « C'est bien clair, sans quoi ils ne se seraient pas arrêtés par ici. Aussi, vous n'avez pas à espérer, mon officier, qu'ils vont vous laisser passer. Ils chercheront à vous attaquer par tous les côtés à la fois. »« Qu'est-ce qui vous fait supposer cela ?» demanda le chevalier, dont l'émotion n'avait cessé d'augmenter. « Je le sais, parce qu'avant de venir jusqu'ici pour vous trouver, j'avais parcouru déjà la forêt. »« Ah ?» firent en même temps Gaspard et le chevalier. « Oui, et je sais que toutes les coulées par lesquelles on peut sortir sont occupées par les Sioux. » « Toutes ?» demanda Gaspard d'un air d'incrédulité, et indiquant de la main l'endroit du torrent qu'il venait de franchir avec ses compagnons. « Puisque nous sommes venus par là, » fit-il, « nous pourrions bien repartir par le même chemin. » Et après un court silence, « Il est vrai, » ajouta-t-il, « que nous avons détruit notre pont, mais nous pouvons bien en rétablir un autre. »« Si ce n'était que ça, » interrompit Rabusson, « vous m'auriez déjà vu à l'ouvrage pour abattre un de ces arbres ou deux et vous fabriquer un pont. » « Mais regardez-vous-même » continua-t-il en emmenant le chevalier sur un rocher, d'où, entre les branches, on apercevait le torrent. Roger et Gaspard, ayant suivi le sergent, virent des ombres qui s'agitaient de l'autre côté du torrent, précisément au même endroit où les Français avaient passé. « Ce sont des Sioux ?» demanda Roger. « En chair et en os, mon officier. » Puis se tournant vers le Parisien. « Vous pouvez les regarder si vous voulez. Il y en a trop pour que ma carabine les descende. Sans compter que dans chaque passage, il y en a autant et plus, ce qui fait que vous n'auriez jamais assez de munitions pour faire cadeau d'un pruneau à chacun de ces moricauds-là. Dans ce cas, prononça le chevalier, il ne nous restera plus, après avoir épuisé nos munitions, qu'à nous frayer un passage baïonnette en avant. Ce serait brave, mais inutile. Je le tenterai, déclara formellement Roger. Ce serait de la folie, riposta le sergent, car avant que vous soyez arrivés à la lisière, il n'y aurait plus un seul de vos hommes debout. « Et puis, poursuivit Rabusson, ils ne vont pas nous attendre, si vous croyez. Peut-être que déjà même, tandis que nous bavardons ici, ces mâles blanchis ont déjà envahi les passages derrière nous. Ce que vous avez de mieux à faire, voyez-vous, c'est de me suivre. »« Où ça ?»« Par où je suis venu, parbleu, » répondit le sergent. Gaspard était interloqué. Quant au chevalier, son front s'était rembruni. Il sentait qu'après tant d'efforts, après tant de difficultés surmontées, il allait échouer au moment d'arriver au but. Relevant tout à coup la tête, il dit d'un ton d'autorité. « Il faut que j'accomplisse ma jonction avec les garçons de la Montagne Verte. Il le faut à tout prix. »« Alors, venez avec moi, » prononça Rabusson. Roger suivit ce nouveau guide jusqu'à la clairière où campait le détachement. Les soldats, bien qu'accablés de fatigue, faisaient bonne contenance contre le sommeil. En entendant marcher, les sentinelles avaient donné l'alarme. Tout le monde fut aussitôt sur pied. En reconnaissant le chevalier, les soldats vinrent tous ensemble se grouper autour de leur jeune chef. Mais personne n'éleva la voix pour interroger. À l'air de Roger, chacun avait compris que la situation était devenue plus grave. Le chevalier prit la parole en ces termes. « Mes amis, la forêt où nous espérions pouvoir passer la nuit est envahie de toutes parts par des Sioux réunis en grand nombre. Je sais que si je vous proposais de lutter jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche, il ne se trouverait pas un seul d'entre vous qui hésiterait. Tous, vous accepteriez de faire votre devoir de soldat. Tous, vous préféreriez mourir les armes à la main plutôt que de devenir prisonnier de ces ennemis qui, vous ne l'ignorez pas, ne font jamais de quartier.
Il faut donc tenter le seul moyen qui nous reste d'éviter la lutte avec l'ennemi. Or, un homme, un compatriote, se propose pour nous servir de guide, afin que nous puissions, sans combat, quitter cette forêt. »
Tous les regards se tournèrent vers le Parisien, dont chacun connaissait le goût pour les aventures dangereuses.
Mais Gaspard fit un signe de dénégation, pendant que le chevalier, présentant le sergent, s'écriait « Voici l'homme qui nous servira désormais de guide !»
Rabusson fut alors, étant donné son costume, l'objet de la curiosité générale. Mais le trappeur n'était pas d'humeur à se laisser dévisager.
« Il faut me suivre, » prononça-t-il, « et m'obéir tout comme si j'étais votre chef. Pas vrai, mon officier ? » ajouta-t-il en se tournant vers le chevalier. « Pas vrai que vous le voulez ainsi ?»
Roger acquiesça d'un signe de tête.
« Pour lors, » reprit Rabusson, « il faut rallier tout le monde et se compter, afin de voir s'il n'en manque déjà pas quelques-uns. »
Gaspard s'étant chargé de réunir tous ses compagnons, on procéda à l'appel nominal.
« Maintenant, nous pouvons partir, » déclara Rabusson. « Je recommande qu'on fasse le plus grand silence, et surtout que pas un ne s'écarte. C'est bien entendu. Alors, en avant, arche !»
Il s'était placé en tête, à côté du chevalier de Vaudrey.
Gaspard fut désigné pour veiller à l'arrière-garde, et la colonne commença d'avancer dans le sentier où Rabusson l'avait engagé.
Le sergent ayant recommandé le plus profond silence, les soldats observaient scrupuleusement l'ordre qui leur avait été donné. On marchait depuis un quart d'heure, sans avoir pour cela parcouru beaucoup de chemin, car il fallait s'arrêter souvent, soit pour franchir, soit pour tourner quelque obstacle. En outre, Rabusson faisait faire halte afin d'écouter si quelque bruit dans la forêt n'annoncerait pas la présence d'une troupe d'Indiens. Pendant une de ces haltes, le sergent avait manifesté une certaine inquiétude. Et parlant tout bas à Roger, «
Pourvu, dit-il, que nous ne soyons pas obligés d'en découdre avec ces moricauds avant d'arriver à la roche plate.
« Qu'est-ce que cette roche plate où vous nous conduisez ? » demanda le chevalier, devenu soucieux à la perspective d'un combat qui retarderait la jonction avec les garçons de la Montagne Verte.
« Vous êtes le chef, » répondit Rabusson, « et vous avez le droit de tout savoir. Aussi, nous allons nous remettre en route et je vous raconterai la chose. »
Quand la colonne fut de nouveau en marche, le sergent commença.
« Vous savez déjà que la forêt est complètement entourée. Pour lors, nous ne pourrions sortir d'ici, si je ne connaissais pas un passage où jamais un Indien n'a encore mis le pied. »
« Un passage secret dans la forêt ? » ?»«
Non pas, un passage sous la forêt. »
En toute autre circonstance, l'ancien sergent du pénitencier eut assurément pris des temps à l'effet de jouir de la stupéfaction de son interlocuteur. Mais la situation était trop grave pour qu'on perdît des instants si précieux en conversation.
« Oui, reprit-il, nous allons passer sous les racines de ces arbres. Et pour cela, mon officier, il faudra consentir à nous enterrer pendant quelques heures. Je vais, continua-t-il, vous dire tout de suite la chose. La roche plate est, comme qui dirait, un bouchon qui ferme l'entrée d'un souterrain. Je supposais bien qu'il s'agissait de nous cacher dans quelque caverne.
Pas le moins du monde, nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons notre chemin dans une galerie souterraine, qu'on dirait avoir été construite tout exprès pour nous. Là-dedans, nous serons comme sur une grande route de France. »
Et avec une pointe de vanité, « C'est moi, le sergent Rabusson, qui ai découvert cette galerie, et je me flatte que ce n'était pas facile. »
Figurez-vous, mon officier, que ce jour-là, c'était tout au commencement de ma vie de chasseur, de trappeur, comme on dit. Ce jour-là donc, j'avais été suivi et j'étais entré dans cette forêt ayant de grands diables de sioux sur mes talons. Naturellement, je cherchais à me cacher le mieux possible, et je me couchais à plat ventre dans les broussailles. Ce n'était pas commode, je vous le jure, mais je n'avais pas le choix.
« Absolument comme nous en ce moment, » interrompit le chevalier.
« Avec ces différences, mon officier, que nous savons, nous allons, et que je ne le savais pas, moi. »
« Voilà, » continua le sergent, « qu'à force de ramper comme un serpent, j'arrive à un endroit où tout à coup mon ventre éprouve un choc. Je regarde, je tâte, j'étais échoué sur un bout de rocher. Une grande roche plate et unie était là. Et je ne fais ni une ni deux, je me hisse dessus. Et crac, voilà que je chamberte comme si j'avais bu toute une cargaison de tafia. Mais ce n'était pas moi seul, c'était la grande roche aussi qui chambertait. Un rocher mouvant, quoi. »
Le chevalier de Vaudrey s'arrêta pour regarder son interlocuteur.
« Ça vous étonne, mon officier ? » reprit Rabusson. « Et moi donc ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai cru que la roche se détachait et que j'allais rouler avec elle sur la pente que j'avais devant moi. Je vous la montrerai tout à l'heure, cette pente sur laquelle on dirait que les arbres vont dégringoler les uns sur les autres. Pour en revenir à ma roche, Voilà qu'après avoir remué, elle s'arrêta. Bon, je regarde, je tâte, j'inspecte, et je me dis que peut-être il y avait quelque chose dessous. Un trou, sans doute, où je pourrais me cacher et échapper aux flèches de ces canailles de sauvages qui me poursuivaient. Et comme je n'avais pas de temps à perdre, je me suis bien vite mise à l'ouvrage. J'avais deviné juste. À force de soulever la roche par tous les côtés successivement, je suis parvenue à la faire mouvoir sur elle-même. Il y avait un trou, bouché par des lianes et des herbes, il est vrai. Mais il y était le trou, et je me faufilais dedans, sans me demander si je n'allais pas me casser le cou. Eh bien m'en prit mon officier, car c'était un vrai souterrain, où l'on pouvait marcher à l'aise pendant des heures. Vous verrez ça. Bref, une fois dedans, j'étais en sûreté. Rabusson s'interrompit un instant pour écouter les bruits vagues de la forêt. Puis reprenant son récit, il raconta au chevalier comment il avait passé une nuit et un jour à parcourir l'immense souterrain, comment il s'était assuré que la galerie, dans laquelle il avait trouvé un refuge, s'étendait à une longue distance sous le bois. « Ce ne fut, dit-il, qu'après avoir marché pendant plusieurs heures, que je parvins au bout de cette longue galerie. Là, je pus constater que le souterrain aboutissait derrière un vaste plateau commandant les défilés de la montagne. « C'était une excellente position stratégique, » interrompit le chevalier de Vaudrey, qui avait écouté avec la plus grande attention le récit du trappeur. « Aussi, vous pouvez être certain que les Sioux y sont installés, » répliqua Rabusson. « Alors il me paraît dangereux de s'engager dans le souterrain, puisque nous ne pourrons pas en sortir sans être attaqués. À moins, toutefois, que vous ne soyez d'avis de nous y cacher, afin d'attendre que les Indiens se soient retirés. « Non pas. Vous avez donc un projet ?» demanda Roger. « Et un bon, mon officier. Écoutez-moi. » Et reprenant son récit, Rabusson ajouta. « Quand j'ai pu me rendre compte du parti que l'on pourrait tirer de la position que j'avais découverte, je pensais que lorsque la guerre serait portée du côté de la Montagne Verte, les Anglais ne manqueraient pas de venir prendre position sur le plateau, afin de canarder à leur aise les troupes américaines qui s'engageraient dans les défilés. « C'est bien pensé, » prononça le chevalier. « On est militaire, quoi, » répliqua Rabusson en se rengorgeant. « Pour lors, mon officier, il m'est venu à l'idée de jouer un fameux tour à ces godames d'habits rouges, en même temps que je rendrai un service sérieux à ces braves Américains qui veulent chasser les Anglais. Et puis, je connaissais les garçons de la Montagne Verte. Ce sont presque des compatriotes. Et je les aime parce qu'ils baragouinent tous un peu de français. Pour lors, mon officier, à partir de ce moment-là, je me suis établi dans le souterrain. C'était ma caserne, et c'est de là que je partais pour mes expéditions. C'est là aussi que je revenais cacher tout ce que je pouvais prendre aux ennemis, qui étaient tantôt des Indiens, tantôt des Anglais. Comment ? Vous vous mettiez ainsi en campagne ? Tout seul ? Mon Dieu, oui, mon officier. Et quelquefois, à moi seul, je mettais en fuite ou bien même j'anéantissais tout un détachement. » Et Rabusson raconta comment, une fois, après avoir attaqué un détachement d'Anglais, il avait réussi à s'emparer d'un petit convoi de poudre. « Vous avez pu ainsi renouveler vos provisions, » fit le chevalier de Vaudrey, qui prenait un grand intérêt à tout ce que lui narrait le sergent. « Mieux que ça !»« Ah, vous aviez une intention ?»« Vous le devinez, n'est-ce pas, mon officier ? Je voulais établir une poudrière. »« Dans votre souterrain ? Mais oui !» Et j'y suis arrivée petit à petit, sans me presser. Si bien qu'à cette heure, j'ai emmagasiné assez de poudre pour faire sauter toute la montagne. » Les yeux de Rabusson flamboyaient. « Vous aviez un but en emmagasinant ces poudres ? » demanda le chevalier de Vaudrey. « Oui, un projet, et un fameux. Malheureusement, je ne pourrais pas l'exécuter. « Pourquoi donc ? » ?»« Tenez, mon officier, » reprit le sergent, « je ne vous cacherai pas la chose. » J'espérais un jour ou l'autre pouvoir faire sauter tout un corps de l'armée anglaise, car il n'y a pas à douter que ces habits rouges ont l'intention de faire une pointe par ici. Eh bien, ça leur aurait coûté cher, voyez-vous. Une fois qu'ils auraient été bien installés sur le plateau, j'aurais mis le feu à ma poudrière, et je leur aurais fait danser une drôle de gigue à ces gaillards-là. Mais, continua-t-il, aujourd'hui, cette poudre doit servir à autre chose. C'est elle qui nous permettra d'arriver de l'autre côté du plateau. Le chevalier de Vaudrey fit un mouvement. Puis regardant son interlocuteur, « Que prétendez-vous faire ? » dit-il. « Parbleu, à défaut d'anglais, je tirerai ma poudre aux Indiens. » Et il expliqua à Roger que les Sioux, ayant en grand nombre pris possession du plateau, il les ferait sauter. « Il n'y a pas d'autre moyen de se défaire de ces moricots, » ajouta-t-il avec un geste énergique. « Du reste, je ne suppose pas, mon officier, que vous éprouviez une grande compassion pour ces ennemis qui ne songent en ce moment qu'à nous scalper pour pendre nos chevelures à leur ceinture. Eh bien, nous ferons sauter tous ces perruquets-là. Ce sera l'affaire d'un coup de carabine à tirer dans ma poudrière. »
« À quel moment ?» demanda le chevalier. « Comptez-vous faire sauter le plateau ?»«
Ah, voilà !» répondit Rabusson. « C'est précisément sur quoi je voulais vous consulter. »
« Il y a deux moyens. Le premier serait de faire sauter le plateau dès que nous serions arrivés à moitié de la galerie. Dans ce cas, comme je vous l'ai dit, ce serait l'affaire d'un coup de carabine. Nous passerions après, comme nous pourrions.
Ce serait au petit bonheur, car on ne sait guère en quel état se trouverait le terrain, après qu'on aura fait sauter la mine.
Nous serons alors débarrassés des Sioux qui occupent le plateau. Mais avant que nous ne soyons arrivés de l'autre côté, qui nous dit que les autres détachements d'Indiens ne nous auront pas gagné de vitesse et ne nous barreront pas le passage? Voilà pourquoi, mon officier, je conseillerais de préférence mon second moyen.
Quel est celui-là?
Il s'agirait d'attendre que nous ayons parcouru toute l'étendue du souterrain. Arrivés au bout, nous en sortirions un par un, et c'est seulement lorsque le dernier homme sera arrivé à l'endroit où nous devons nous réunir que je ferai sauter le plateau. Par exemple, le dernier qui fermera la marche courrait un grand danger.
Enfin, mon officier, à la guerre comme à la guerre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Le chevalier eut un léger tressaillement, puis se maîtrisant aussitôt, « J'accepte votre second moyen, » prononça-t-il. « Et en ce cas, » ajoutait-il d'une voix ferme, « c'est moi qui passerai le dernier. »
« Vous ? Le chef ?
C'est mon devoir de m'assurer que le détachement que je commande est en sûreté avant de songer à moi-même. »
Rabusson porta vivement la main ouverte à la hauteur de son front, comme autrefois quand il faisait le salut militaire.
« C'est juste, » dit-il simplement. Puis, après un court moment de silence, « Il ne nous reste plus, » reprit-il, « qu'à gagner au plus tôt la roche plate. »«
En sommes-nous encore bien éloignés ? » demanda le chevalier qui avait retrouvé tout son sang-froid.
« Si nous ne rencontrons pas d'Indiens d'ici là, nous y serons dans 5 petites minutes. C'est juste le temps de vous dire quelles sont les dispositions à prendre pour l'exécution et la réussite de mon plan. »
« Parlez.
Vous vous chargerez, mon officier, de faire la leçon à vos hommes. Il faut qu'ils sachent d'avance le mouvement qu'on veut leur faire exécuter, afin que pas un ne bronche. »
« Bien.
Après cela, on désignera le tour de chacun. Ce sera à vous de choisir ceux qui passeront les premiers. Il faudrait pour ouvrir la marche un homme déterminé. »
« J'en ai un. »«
Parfait, je le guiderai. Après quoi, mon officier, j'irai me placer à mon poste. »«
Vous nous quitterez donc ?»«
Il le faudra bien, pour que je puisse juger par moi-même du moment où je devrais faire sauter la mine. »«
Par exemple, pour le second moyen, il ne faut pas de coup de carabine. »«
J'ai prévu le cas de longue date. J'ai préparé une mèche et je m'assure de temps en temps qu'elle est toujours en état. »
Ainsi que l'avait annoncé le sergent, on ne tarda pas à arriver au rocher que Rabusson avait baptisé de roche plate. C'est sous cette roche, comme on sait, que se trouvait l'entrée de la galerie. Avant de procéder à la marche dans le souterrain, Rabusson voulut s'assurer qu'il n'avait pas été suivi par des Sioux. Il écouta longuement dans toutes les directions, et certain que la forêt n'avait pas encore été envahie par les ennemis, il dit au chevalier de commander à ses hommes d'avoir à suivre strictement ses recommandations et ses ordres pendant la marche dans le souterrain. Puis Gaspard, appelé à prendre la tête du détachement, pénétra le premier dans la galerie. Successivement, ses compagnons suivirent l'endiablé parisien, qui, bien qu'on lui eût recommandé le silence, ne pouvait se dispenser de faire force plaisanterie sur le voyage souterrain qu'on allait accomplir. Quand la moitié du détachement eut disparu par l'ouverture de la roche plate, Rabusson s'adressa au chevalier de Vaudrey en ces termes. « Mon officier a pu juger que jusqu'ici tout a marché à merveille. Il n'y a plus de danger de ce côté, et je vais pénétrer à mon tour dans la galerie afin de voir comment tout notre monde s'arrange par là et pour diriger la sortie des hommes de façon à ce qu'ils ne soient pas commis d'imprudence.
« Allez, » dit le chevalier, « je veillerai ici à ce que le reste de la colonne suive les hommes qui ont ouvert la marche. »
Rabusson s'inclina et se glissa par l'ouverture. À l'intérieur du souterrain, tout se passait ainsi que l'avait prévu le sergent. Gaspard avait peu à peu laissé s'endormir sa verve faubourienne. Il se rendait compte de la gravité de la situation. En apercevant Rabusson, qui, après avoir dépassé les hommes marchant en file, était arrivé auprès de lui, le Parisien lui dit « Eh bien, l'ancien, nous allons, à ce qu'il paraît, jouer un bon tour au Moricaud ?»«
Ça, c'est mon affaire, » répondit le sergent du ton d'un homme peu disposé à donner la réplique à des plaisanteries. Du reste, Gaspard n'eut pas à renouveler ses questions. Une vague lueur commençait à éclairer la galerie.
« Halte !» commanda Rabusson. La colonne s'arrêta net, tandis que le sergent, continuant seul à marcher, arrivait à l'ouverture de la galerie. Il se coucha à plat ventre et, s'aidant des mains, il parvint jusqu'aux broussailles qui cachaient complètement l'issue. De l'endroit où il se trouvait, son regard pouvait embrasser tout le paysage. Il vit, installés sur le plateau, des Sioux en grand nombre, lesquels avaient allumé des feux pour le boucanage de daims tués pendant la marche du jour précédent. Puis il jeta un coup d'œil sur le versant de la montagne que lui et ses compagnons auraient eu à escalader sous la pluie des flèches lancées par les Sioux s'ils n'avaient décidé de faire sauter la mine. C'est par le défilé que commandait la dite élévation que les garçons de la Montagne Verte devaient passer pour venir au-devant des Français. Le sergent espéra un instant voir paraître la tête de colonne de ces intrépides montagnards, mais il dut se convaincre que le mouvement qui avait attiré son attention du côté des défilés était produit par une troupe de chevaux sauvages qui, chassés à outrance dans la savane, cherchaient un refuge dans la montagne. « Voilà une cavalerie qui ferait joliment notre affaire !» pensa Rabusson en regardant le troupeau qui se pressait dans le défilé. Cet incident avait eu pour résultat d'attirer l'attention des Sioux de ce côté. C'était donc une heureuse diversion dont le hasard faisait bénéficier les Français. Rabusson le comprit, et pour en tirer tout l'avantage possible, il revint à ses compagnons afin d'activer leur marche. À ce moment, du reste, les derniers hommes étaient entrés dans le souterrain, précédant le chevalier de Vaudrey, qui, après s'être assuré que les Indiens ne se montraient nulle part dans la forêt, pénétra à son tour dans la galerie.